Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'ONU Info Genève, le podcast du service de l'information des Nations Unies à Genève. Depuis lundi se tient à Genève la 27e réunion internationale des directeurs nationaux de programmes de lutte anti-mines des Nations Unies, qui a pour thème « Protéger les vies, construire la paix », l'occasion pour les dirigeants et les experts du monde entier de se rencontrer pendant 3 jours pour échanger et travailler en réseau sur les questions urgentes, notamment la situation sécuritaire mondiale. Parmi les intervenants, Jean-Pierre Lacroix, le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix. Entre 2 réunions diplomatiques, il a accepté de répondre à nos questions. Il évoque notamment l'importance de cette réunion dans le contexte de crises multiples que traverse le monde, mais aussi la mission compliquée des casques bleus au Proche-Orient en raison de la guerre à Gaza, ainsi que le retrait de la MONUSCO et de la MINUSMA. Jean-Pierre Lacroix est notre invité cette semaine. Jean-Pierre Lacroix, bonjour.
Bonjour.
Et un grand merci de répondre à mes questions. Alors, vous êtes ici à Genève pour participer à la 27e réunion internationale des directeurs nationaux de l'action anti-mine des Nations Unies. Comment, selon vous, ces discussions contribuent-elles aux efforts mondiaux de déminage et de construction de la paix ?
C'est une réunion très importante parce que c'est l'endroit où tous les acteurs de l'action en matière de mines se réunissent, c'est-à-dire les organisations non gouvernementales, les États, les partenaires privés, les Nations Unies dans leur diversité, y compris UN Mine Action System, que j'ai l'honneur de diriger dans le cadre de mon département, le département des opérations de paix. Et c'est d'autant plus important cette année que les besoins sont en hausse exponentielle, malheureusement à cause des conflits qui caractérise le monde d'aujourd'hui, que ce soit Gaza, Ukraine, mais aussi le Soudan, donc avec des besoins en hausse et la nécessité de s'adapter, y compris en termes de ressources financières, de répondre à ces besoins et d'avoir à l'esprit aussi ce dont on parle, c'est-à-dire la nécessité à la fois de protéger des vies et aussi de permettre, à travers des actions de sensibilisation, des actions de déminage, de retrait de tous ces engins explosifs, de permettre d'autres activités essentielles, à la fois à l'action humanitaire, à la reconstruction, à la construction de la paix.
Maintenant, par rapport aux actions plus globales de maintien de la paix, vous êtes rendu récemment au Liban, et à cette occasion, vous avez appelé à toutes les parties au calme. Dans quelles conditions travaillent aujourd'hui les 2 missions de maintien de la paix en Israël et au Liban, dans le contexte de cette guerre à Gaza ?
Bon, les opérations maintien de la paix que nous avons dans la région, notamment la FINUL, travaillent dans des conditions difficiles. Elles jouent un rôle fondamental parce que la FINUL est le seul canal de communication entre le Liban et Israël, dans un contexte où il y a une multiplication des échanges de tirs de part et d'autre. Et ça ne permet pas de mettre fin, parce que ça, ce serait une décision politique, à ces échanges de tirs, mais ça permet d'éviter au moins les malentendus et je dirais l'escalade involontaire. Et puis, il y a cette présence sur le terrain aussi, qui est le plus souvent effectuée ou se manifeste en coopération avec l'armée libanaise, qui permet également de procéder à certaines opérations, notamment en matière de prévention des attaques diverses émanant de, et en tout cas de certaines d'entre elles émanant du Liban. Donc c'est un contexte qui est détérioré sur le plan sécuritaire avec des risques croissants sur nos personnels. Nous avons déjà plusieurs personnels blessés dans la FINUL notamment. Je pense aussi à notre opération sur le plateau du Golan, la FNUOD, qui est aussi affectée dans une moindre mesure par je dirais, cette hausse de la conflictualité dans la région. Donc un rôle qui reste très important, je dirais, qui s'est particulièrement concentré sur la liaison entre les parties et la déconfliction et tous les efforts faits pour prévenir une escalade.
Alors, autre situation, vous êtes rendu aussi récemment en République démocratique du Congo, en février dernier, pour faire le point sur le retrait de la MONUSCO, la force de maintien de la paix de l'ONU dans ce pays. Comment se passe ce retrait et la transition alors que l'Est du pays est toujours en pro-violence des groupes armés, les civils victimes de nombreuses violations ?
Oui, alors la situation reste très compliquée dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les autorités congolaises veulent graduellement prendre leur situation en main, et en soi c'est une bonne chose. C'est pour ça que nous avons négocié un plan de désengagement graduel de la MONUSCO, qui prévoit à ce stade une première phase qui concerne une province, qui est celle du sud Kivu, où nous sommes en train de nous désengager, à mesure que la présence de l'État congolais se renforce dans cette province. Pour le reste, les étapes suivantes restent à déterminer en coordination avec les autorités congolaises. Nous devons procéder à des évaluations régulières avec elles pour déterminer quelle sera la suite de ce désengagement qui est graduel, qui doit être, et c'est aussi la position des autorités congolaises, responsable, qui doit se faire de telle manière qu'il n'y a pas de conséquences en ce qui concerne la protection des civils. Maintenant, ce qui est fondamental, c'est qu'il y ait la poursuite et le renforcement des efforts politiques, notamment pour ce qui concerne ce conflit qui est, par beaucoup d'égards, un conflit régional qui ne dit pas son nom. Et comme c'est un conflit régional, par de nombreux aspects, il demande des initiatives régionales, ce qui est le cas. Il y a des initiatives régionales, notamment de la part de pays d'Afrique australe. L'Angola est en position de leadership sur les efforts politiques. La SADC, qui est l'Organisation d'Afrique australe, a pris l'initiative de mettre en place une force qui peut contribuer aussi à créer un espace pour davantage de progrès dans le domaine des efforts politiques. Nous soutenons tous ces efforts et en même temps nous faisons aujourd'hui encore énormément de travail, même si les besoins sont énormes en matière de protection des civils. Et il y a beaucoup de zones dans l'est du Congo où nos collègues, que ce soit les civils ou les militaires, font, je dirais, de la différence entre la vie et la mort, on peut le dire, pour des dizaines, voire même des centaines de milliers de personnes vulnérables. Et bien entendu, ce travail va se poursuivre jusqu'au moment où il y aura les capacités nécessaires pour prendre le relais du côté congolais, où j'espère les efforts politiques auront porté leurs fruits.
Alors, il y a eu le retrait aussi de la MINUSMA il y a quelques mois. Il y a eu le retrait de la mission de la paix en Haïti en 2019. Est-ce que ce n'est pas inquiétant ces fermetures de missions alors que les situations dans les pays sont sécuritaires, ne sont pas réglées ?
Je pense qu'il n'y a pas forcément une tendance générale. Il y a des cas particuliers et puis il y a un contexte qui est celui de la division croissante entre les États membres des Nations Unies, notamment le Conseil de sécurité. Pour ce qui est d'Haïti, à l'époque, c'est le gouvernement haïtien qui souhaitait le départ de l'opération maintien de la paix, et il le souhaitait notamment parce que la stabilité était largement revenue en Haïti. Ces opérations de maintien de la paix en Haïti ont eu certes leur côté sombre, mais en 2017 et en 2018, on ne parlait plus de problèmes de sécurité en Haïti. Moi, j'y suis allé à plusieurs reprises à cette époque et la situation était telle que le gouvernement de l'époque voulait, au fond, tourner la page et aborder de manière prioritaire les questions de développement. La seule difficulté, c'est que les dynamiques politiques en Haïti ont été telles qu'elles ont conduit finalement à la situation qu'on connaît aujourd'hui. Et bien sûr, ça remet, je dirais pas les compteurs à zéro, mais en tout cas, ça demande à nouveau une action pour mettre fin à cette situation de violence. En ce qui concerne le Mali, je pense que ce qui était au cœur de notre départ, c'était le fait que les objectifs politiques des autorités maliennes sont devenus incompatibles avec les objectifs politiques de notre mandat qui était fondé sur le soutien à l'accord de paix d'Alger. Et à partir du moment où les autorités avaient décidé de ne plus mettre en œuvre cet accord et de privilégier le recours à la force pour reprendre le contrôle du Nord, il y avait une incompatibilité qui, à terme, devait mener à ce départ. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier et minimiser le fait que nous avons encore 11 opérations de maintien de la paix dans des contextes différents qui jouent un rôle que nul autre pourrait jouer en matière de préservation de cessez-le-feu ou de au moins limitation des risques, comme c'est le cas aujourd'hui au Liban, et qui protègent des centaines de milliers de personnes tous les jours. que ce soit en République démocratique du Congo, en République centrafricaine ou au Sud-Soudan. Et aujourd'hui, on ne voit pas très bien qui pourrait les remplacer. En tout cas, on peut imaginer quelle serait la situation si ces missions partaient. Maintenant, nos États membres sont divisés et donc ils sont moins en mesure, aussi à cause de la multiplication des crises, de mettre leur poids politique derrière les efforts de paix dans chacune de ces situations. Et c'est un problème majeur parce que ça fait que les progrès politiques vers des situations, vers des solutions durables, sont beaucoup plus lents, voire même sont paralysés dans certaines situations.
Vous avez souligné la nécessité de mettre fin à la violence sexuelle liée au conflit et de traduire les responsables en justice. Comment les opérations de maintien de la paix des Nations Unies contribuent-elles à la prévention de cette violence et à l'assistance des victimes dans des environnements de conflit ?
Alors, nous avons d'abord beaucoup d'actions en matière de formation des forces des pays hôtes, qu'il s'agisse des forces de sécurité, des forces armées. Je crois qu'il faut faire bien davantage. Je crois qu'il faut aussi travailler ce que nous faisons dans toute la mesure du possible sur la redevabilité, c'est-à-dire faire en sorte que il puisse y avoir une situation où les responsables de ces actes rendent des comptes. Ce qui suppose beaucoup de choses. Ce qui suppose soutenir les institutions en matière d'état de droit, la police, la justice et aussi les prisons. C'est ce que nous faisons dans de nombreux pays. Je crois qu'il faut reconnaître que l'ampleur du phénomène est très, très grande et souvent au-delà de ce que nous pouvons faire pour les différents domaines que j'ai mentionnés. L'assistance aux victimes aussi est extrêmement importante et nous le faisons de différentes manières, d'ailleurs y compris en ce qui concerne le Congo en soutenant et en assurant un degré de protection à la fameuse clinique du docteur Mukwege. Il y a beaucoup d'autres types d'actions. Et puis la sensibilisation aussi, je crois que pour nous, la meilleure réponse à apporter à ce phénomène, c'est la prévention, c'est-à-dire d'être en mesure d'éviter que les menaces se matérialisent sur les populations. Et ça suppose une bonne coordination avec les communautés pour qu'on puisse détecter la menace avant qu'elle se produise, avant qu'elle se matérialise. Et aussi une capacité de réagir rapidement là où ces menaces existent. Donc il y a tout un ensemble finalement de mesures, de préparatifs, je dirais, qui rentrent en compte pour limiter au maximum ce phénomène. Et puis bien sûr, la question du soutien aux victimes et donc de la redevabilité.
Jean-Pierre Lacroix, un grand merci d'avoir répondu à mes questions.
Merci.
C'était l'interview de Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix, à l'occasion de sa participation à la réunion internationale des directeurs nationaux de programmes de lutte anti-mine à Genève. Et c'est la fin de cette édition. À la préparation, il y avait Adélaïde Chauveau. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. À très bientôt.